Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our £14 billion lending fund to help small businesses. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. Or lending subject to status.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
22h de retour dans l'after, c'est jusqu'à minuit. On va parler du salaire des footballeurs. Juste le temps pour moi de vous signaler la réduction de l'écart de Wolverhampton. Il est costaud là, celui qui a marqué.
Très costaud.
C'est qui ce numéro
17?
Tout en puissance, entrée de surface de réparation de 1. On rappelle que Manchester City est à 10 depuis une vingtaine de minutes, après une vingtaine de minutes de jeu, pardon, après avec l'exclusion d'Ederson, le gardien. Ça fait donc 2-1 en faveur de Manchester City face à Wolverhampton. Manchester City qui reviendrait potentiellement à 11 points du leader Liverpool. 22h donc, il est temps de parler du salaire des footballeurs. Pierre Rondeau est avec nous, il est économiste du sport. Bonsoir Pierre.
Bonsoir à tous.
Salut,
bonsoir
Pierre.
Bonsoir Pierre.
Un habitué de l'after évidemment. Pierre, tu as sorti aujourd'hui un article sur le salaire des footballeurs. Il y a une première partie où il n'y a pas énormément de surprises. C'est en Angleterre qu'on gagne le plus d'argent, quel que soit votre âge, quel que soit votre poste. C'est en Angleterre qu'il faut aller pour gagner des sous. Mais ensuite, il y a une partie plus intéressante en fonction des postes, poste par poste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, Pierre?
Alors, je peux aller même beaucoup plus loin, parce que comme tu l'as dit, c'est poste par poste, gardien, défenseur, milieu, attaquant. Mais il y a aussi, en fonction de l'âge, les moins de 23 ans, les 23-29 ans, les plus de 30 ans, selon les championnats. Donc, tu l'as dit, les cinq grands championnats européens, France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie. Bien évidemment, c'est en Angleterre qu'on touche le plus d'argent. Le salaire moyen en Angleterre, c'est 3 580 000 euros par an. La Ligue 1, c'est seulement 1 170 000 euros par an. Mais ensuite, en détail...
Tu parles en brut, hein ?
Alors, à chaque fois en brut. Ça, effectivement, on parle en brut. Je prends pas en considération l'impôt. On pourra d'ailleurs y revenir pour expliquer pourquoi la France est très loin derrière les quatre grands championnats. Mmh. Hein, puisque, dans le détail, hein, alors je précise... en face de moi, je n'ai pas appris par cœur, j'ai plus de 125 données entre les salaires des jeunes, des seniors, des 23-29 ans, selon le poste, selon le championnat, la moyenne totale, donc il y a beaucoup de données.
Je vais parenthèse de François.
Pierre, on va continuer dans les chiffres. Tu parlais du salaire moyen annuel en Ligue 1 qui est de 1 170 000 euros brut par an, c'est ça ?
1 170 000,
ouais. Okay. Divisé par 12, donc c'est pas moi qui le fais, c'est ma calculatrice, ça fait 97 500 euros brut par mois en Ligue 1. Est-ce que d'après toi, il faut pas aussi un peu pondérer ce chiffre avec, dans la masse des salaires de la Ligue 1, des salaires à Monaco et au Paris Saint-Germain qui sont peut-être en moyenne 3 fois ou 4 fois plus élevés que celui qu'on a dans les 18 autres clubs.
C'est le salaire moyen, pas le salaire médian.
Si tu veux, je vais encore aller dans le détail parce que je peux te donner le salaire moyen du PSG et de Monaco. Le PSG en moyenne, c'est 8 millions 60 000 euros par an.
Vous vous rendez compte, ça fait presque fois 8.
Exactement, c'est 8 fois plus que la moyenne totale en Ligue 1. Et Monaco, c'est 2 560 000 euros par an de moyenne.
Donc c'est intéressant d'avoir ton chiffre retranché de Paris et de Monaco.
Même des deux extrêmes.
On peut quasiment diviser la moyenne par deux si tu retires Monaco et Paris. Ouais. Effectivement, si tu retires Monaco et Paris de la moyenne totale, tu passes de 96 000 à un peu moins de 50 000 euros par mois de moyenne.
C'est le chiffre qu'on connaît avant même... avec l'inflation, avant même l'arrivée des Qataris, on est autour de entre 48 et 50 000 euros bruts par mois sur la Ligue 1.
On était il y a quelques années de moyenne en Ligue 1, en retirant les chiffres du PSG qui sont assez colossaux, on était autour de 45 000 euros par mois. Donc on en est là, ça n'a pas vraiment changé. On n'a pas eu de très grande augmentation des salaires. Pour la France, on est toujours sur hors PSG, du 45 à 50 000 euros par mois de moyenne.
C'est plus réaliste, non, Pierre, par rapport à...
C'est plus réaliste. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant ensuite, la Ligue 1, Monaco, Paris, mis de côté. Mais maintenant, je vois la Ligue 1 par rapport à l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne. L'Allemagne, tout de même, c'est pas très élevé. L'Allemagne, si je puis dire, toute proportion gardée, c'est 1 780 000 euros, toujours brut, par an. L'Angleterre, 3 millions, je répète, hein, 3 580 000 euros net brut par an.
Avec pas les mêmes impositions, pas les mêmes taxes, etc.
Exactement, ouais. Exactement. Mais ça, c'est toujours des choses qu'il faut toujours préciser. La Liga espagnole, 2 280 290 000 euros par an.
Avec pas la même imposition pour les joueurs étrangers.
Exactement, et de la même manière pour la Serie A. La Serie A, on précise que le gouvernement a voté un régime fiscal pour les impatriés assez intéressant. Et le salaire moyen annuel en Serie A, c'est 2 230 000 euros par an.
Ah, c'est donc, étonnant, voilà. Ouais. Je pensais pas que c'était autant en Italie, c'est étonnant.
Bah, l'Italie, je précise, ouais, parce qu'il faut toujours mettre pour prendre en considération la question fiscale.
Ouais.
L'Italie, l'année dernière, a voté un régime fiscal intéressant pour les impatriés. Qui exonère de plus de 50% d'impôts sur le revenu tous les jours
sur les deux premiers. C'est marrant. Exactement. Parce que ils ont calqué leur système sur pour enfin c'était le même système qui existait pour la fuite des cerveaux et c'est le système qui a permis de faire venir Ribéry, ça manque pas de sel.
Ouais. Voilà. Alors je peux ensuite ça va dépendre comment on peut. Alors on peut aussi préciser effectivement que l'écart entre la France et le reste de l'Europe du Big Five est expliqué en grande partie par les cotisations patronales qui sont extrêmement élevées en France et plafonnées en Espagne, Allemagne, Italie. Et petit point de détail, ça restera très très bref, mais la France, par exemple, en termes de cotisations patronales, c'est entre 25 et 30% du salaire payé. Donc pour vous donner un simple exemple, si un club français négocie un salaire avec un joueur de 1 million d'euros par an, oui, il devra payer 270 000 euros de cotisations patronales. Donc au total, 1 270 000. L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont des cotisations patronales plafonnées. Autrement dit, l'Allemagne ou le club allemand payera au maximum, quel que soit le joueur, au maximum payera 13 000 euros de cotisation patronale.
Ouais.
L'Espagne payera 15 500 euros de cotisation patronale. L'Italie payera 35 000 euros de cotisation patronale au maximum.
Au maximum, alors qu'en France, ça peut être
270 000. Voilà. Il n'y a pas de plafond.
Il n'y a pas de plafond en France. Effectivement, si vous gagnez 2 millions d'euros, il peut y avoir quasiment, c'est pas 2 millions, mais 1,8 million de charges patronales. Alors, on va peut-être plus se recentrer sur la deuxième partie de cet excellent papier, Pierre, que l'on retrouve sur le site d'RMC Sport. Sur finalement une concordance entre le style de jeu, on va dire l'histoire footballistique de chacun de ces championnats et le fait que les joueurs y soient mieux payés. On sort l'Angleterre de ce classement parce qu'encore une fois, c'est en Angleterre qu'on est le mieux payé de partout. Mais ce qui ressort, et c'est intéressant par exemple, que pour un défenseur, on est mieux payé en Italie.
C'est assez intéressant d'avoir sorti ça. Comme tu as dit, si je retire l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'est une autre dimension, c'est autre chose, une autre catégorie. L'Italie, qui est reconnue pour son système ancestral assez défensif, eh bien le défenseur européen le mieux payé évolue en Italie. Le salaire moyen du défenseur en Italie, c'est 1 800 000 euros par an, alors qu'en Espagne, c'est 1 730 000, en Allemagne, c'est 1 680 000, et en France, c'est 1 040 000 euros de moyenne par an. Donc c'est en Italie que pour un défenseur, on gagne le mieux, et de la même manière, comme tu l'as dit, par rapport à la philosophie du championnat, le milieu allemand, de la même manière. Alors peut-être que le championnat allemand est basé sur une phase de jeu construite, intelligente, basée sur un milieu assez solide. Le milieu allemand, de la même manière, gagnera plus avec un salaire estimé à 2 500 000 euros contre l'Espagne 2 420 000 et l'Italie 2 400 000. Donc on est en deçà.
Et chez nous, alors, on est les derniers. Pour mesurer l'écart.
Toujours, pour rester sur ce point de philosophie de jeu, la chose qu'on remarque, c'est que en moyenne, le défenseur français, en tout cas évoluant en France, gagne autant que le milieu français, ou en tout cas évoluant en France, 1 040 000 euros de moyenne.
Alors effectivement, c'est intéressant. Messieurs, ça vous surprend par exemple que l'Italie, même si évidemment ces vieux clichés sont pas toujours encore d'actualité, mais bon, l'Italie dans l'idée, c'est le Catenaccio, que les défenseurs italiens soient les défenseurs d'Europe les mieux payés après les défenseurs anglais.
Ça fait un peu
ça n'existe plus, ça, Catenaccio,
c'est ok à l'époque d'Herrera dans les années 60-70 et encore après, mais
ces chiffres ne te surprennent pas.
Non, moi je ramènerai un chiffre à la surface par rapport à ces questions de salaire par poste. C'est que la carrière moyenne d'un pro, elle est entre 6,5-7 ans et demi, et que quand ils ont la possibilité pour un joueur français d'avoir un contrat une fois dans une vie, parce qu'ils sont pas tous formés dans des clubs qui payent des super salaires, évidemment il n'y a pas à réfléchir, quoi.
Ouais.
Non, moi, la réaction que j'ai là-dessus surtout, c'est méfions-nous de ces chiffres. Parce que certes, ce sont des moyennes, mais quand on dit souvent le footballeur français qui plus est trop payé, il y en a quand même beaucoup, je peux vous dire, qui galèrent, entre guillemets, parce que voilà, comme dit François, il gagne pendant 6 ans, 7 ans. Et derrière, faut assurer une vie et faut retourner travailler. Alors, c'est normal.
Par rapport à ce que vient de dire Damien, pardon Damien, te coupe deux secondes, mais je c'est pas grave, je m'étais fait insulter il y a 3 ans ou 4 ans, j'en avais parlé dans l'after, je vais me refaire insulter. Surtout qu'on est un peu dans une période socialement compliquée, mais le salaire moyen en France, il est donc aujourd'hui, quand on enlève Paris et Monaco, tous les joueurs, il y a eu à peu près 800 pros en Ligue 1, ils ont pas la chance d'avoir un contrat dans ces deux clubs, ou alors à Lyon aussi qui pratiquent de très bons salaires. Donc s'ils ont la possibilité de faire un bon contrat avec ces 48 de moyenne, donc 6 ans à peu près, 7 ans de carrière. Après ça s'arrête. Ils sont pas tous consultants pour RMC Sport ou d'autres médias français.
Ils payent grâce.
Donc ça dépend de leur investissement dans l'immobilier ou d'autres, et puis des investissements, puis aussi des divorces parfois aussi qui sont très coûteux. Bref, quand tu ramènes ça à une période où en gros des gens comme nous, on va travailler pendant 40 ans. Ça revient à ce que touche un cadre supérieur dans une entreprise qui pratique et qui a une grille de salaire plutôt sympa en
mais
France,
non, mais
et qui a cotisé
comparer.
Sur 40 000.
C'est incomparable parce que c'est, alors ok, admettons le salaire moyen c'est 48 000 euros par mois,
c'est
d'accord.
Ça.
Là, on va dire que tu fais une carrière de 6 ans, d'accord. Donc ça veut dire qu'en 6 ans tu peux quand même, c'est une durée très courte, tu peux quand même amasser 3 millions d'euros. Quand t'es un cadre et que tu as un certain salaire et que tu te fais la même somme d'argent mais sur une carrière de 40 ans, t'as pas des liquidités qui arrivent au même moment. Donc je pense que quand même d'avoir des le fait d'avoir les liquidités très rapidement comme ça sur une très courte période, si t'es dans la merde, c'est de ta faute, c'est que t'as géré ça comme un cochon.
À la différence, oui, mais je te parle pas de la gestion, je te parle juste de ce que tu vas encaisser. La gestion, c'est encore autre chose.
Mais la temporalité à laquelle tu l'encaisses, c'est pas pareil.
Je peux dire que les joueurs touchent 15 000 euros, et c'est le cas pour la plupart des joueurs. Va à Dijon, va dans tous les clubs qu'on a cités tout à l'heure, les Nîmes, les Metz, tout ce que tu veux, va voir ce que c'est la grille des salaires vraiment. Et moi je te dis, faut arrêter de fantasmer au bout d'un moment à penser que même à Metz tu vas gagner des 100, des 150 000 euros. C'est pas vrai.
Non, ça,
tu vas
gagner évidemment.
Le plus gros, je sais pas, j'ai pas d'ordinateur, mais de ta 80 maximum. 60, 80. Et la plupart, François, ils sont à 20-30.
Non, mais la remarque de Jonathan est juste, mais il y a un côté hors sujet, parce que moi je te parle juste des sommes que tu vas encaisser. Ouais. Par rapport à ta gestion, c'est autre chose. La gestion de ces liquidités que tu touches très vite, elle est beaucoup plus compliquée pour celui qui travaille dans l'entreprise de manière plus classique.
Il y a quand même une différence quand tu touches une somme d'argent importante sur 6 ans que lorsqu'elle est lissée sur 40 ans.
Il y a aussi
le coût de la vie quotidien reste le même, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais il y a une autre différence, c'est sur ton train de vie. Parce que pour des mecs qui ont eu la chance de toucher ces 48 de moyenne par mois et qui se sont adaptés pendant 6 ans, 7 ans à certains trains de vie avec madame,
donc c'est de la gestion.
Les enfants,
c'est de la gestion, on est d'accord.
Que de la gestion. Et tu n'as pas été préparé à ça en plus.
Passé les 7 ans, on interdit à personne aussi de retourner sur le marché du travail, quitte à gagner moins. C'est une possibilité aussi.
Le marché du travail classique à toucher 48 000 euros par mois, c'est compliqué. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le joueur, passé ses 7 ans, mais ils veulent a le droit d'aller travailler pour 2500 euros par mois.
Et demande à la maman si elle ne veut pas maintenir son train de vie.
Pierre Rondeau.
Oui, c'est juste pour aller dans le sens du débat. Il y a un chiffre que je voudrais donner qui vient d'un des syndicats des joueurs britanniques qui estime que 40% des joueurs font faillite au moins 5 ans après leur carrière. Donc c'est vrai que même s'ils ont un train de vie, en tout cas, ils ont une rémunération très élevée par rapport à la moyenne lambda en France ou en Angleterre. Ils ont un train de vie quand même assez élevé. Il y a des cas de divorce, des cas de dépression.
Un joueur sur deux.
Oui, bien sûr, bien sûr, c'est énorme. Donc ce qui se passe, c'est que comparer un cadre qui sur 40 ans va gagner 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, et un joueur qui sur 5 ans, 6 ans va gagner 100 000, 200 000, ben oui, mais le problème, c'est qu'à 35 ans, retraite sportive, qu'est-ce qu'il fait après? Il n'a pas fait d'études, il a arrêté l'école à 14 ans, il n'a aucune formation.
Mais c'est un autre problème.
Son maintien, c'est qu'ils ne deviennent pas tous rentiers. Ils doivent continuer à vivre et une famille à nourrir, alors qu'ils avaient un train de vie assez dispendieux, assez élevé.
Oui, mais bon, ça, il n'y a personne qui les force à avoir ce train de vie dispendieux, comme tu le dis. Moi, je te dis juste, quand tu gagnes de l'argent comme ça, libre à toi de, même si t'as pas été formé, etc., mais de bien t'entourer. C'est qu'il y a des conseillers, libre à toi de bien t'entourer. Libre à toi de prendre un conseiller financier qui te gère ça de manière intelligente.
À 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand elle quitte le cursus scolaire normal, ils ont les épaules assez larges pour se dire, tiens, je vais prendre un conseiller
Ça, c'est une autre part du débat qui est importante.
Ça, c'est un autre débat. C'est le rôle des agents qui ne font pas leur rôle, qui s'occupent simplement des transferts et qui oublient peut-être d'avoir le rôle de conseiller, de conseiller financier. Les clubs aussi, ils sont pour quelque chose, mais aujourd'hui, les agents font bouger les joueurs à toute vitesse et oublient peut-être un peu la part de conseil financier qu'ils ont à faire.
L'agent, quand tu pars à la retraite, qu'est-ce qu'il fait pour toi ? Terminé, hein, sa pelouse d'or, elle est.
C'est exactement ce que je dis. En tout cas, l'avis de l'ancien pro qui est autour de cette table, Damien Perrinel.
Non, après, pour rebondir, sur les investissements, tout ce qu'on veut. Comme l'a dit Pierre, je trouve, tu gagnes une somme d'argent à 16, 17, 19 ans. T'as aucune maturité pour gérer cet argent de la manière dont il le faut. C'est-à-dire que tu n'as plus la notion de l'argent, tu ne sais plus ce que vaut un euro en soi, parce que tous les gens autour de toi sont dans ce même délire de dépenser de l'argent, d'acheter des belles bagnoles et ainsi de suite. C'est triste, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, t'as tellement, franchement, j'ai connu tellement de gens, de joueurs qui se sont fait avoir sur des placements, sur machin.
Ça, c'est terrible.
Et je peux vous dire un truc. Et pourtant, les mecs, tu les vois, hein, ils sont câblés, c'est-à-dire qu'ils ont le cerveau, ils ont tout ce que tu veux, mais ils se font quand même avoir. C'est-à-dire que t'as tellement de profiteurs autour qu'au bout du compte, bah, tu peux te retrouver en banqueroute, comme l'a dit Pierre, 40% des joueurs
mais
en Angleterre.
Damien, j'entends ce que j'ai, mais je pense que tu me l'as dit, c'est un autre débat, et ce qui serait intéressant d'avoir, c'est sur la manière dont je pense les clubs formateurs accompagnent les jeunes, justement, bah, pour les préparer à cette espèce de notoriété et à l'afflux financier qui va de pair. Et aussi, je pense que les syndicats, alors on a souvent les gars de l'UNFP, je pense qu'il y a un rôle qu'ils doivent assumer un petit peu plus dans ce rôle de conseil pour accompagner les pros dans leur gestion de patrimoine, même si ça existe, hein, je sais que ça existe.
Je crois que ça existe en Angleterre.
Mais en France aussi, ça existe. Il y a des conseillers de gestion du patrimoine qui sont mis à la disposition des joueurs par l'UNFP. Après, Damien, je te vois faire la moue, je pense que c'est pas assez poussé et je pense que c'est pas non plus assez systématisé. Mais encore une fois, oui, c'est quand même, merde, quand tu te fais même juste 500 000 euros en une année. Tu peux quand même te démerder pour pas te retrouver dans la merde après.
Voilà, messieurs, merci beaucoup Pierre Rondeau d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On retrouve ton article sur rmcsport.fr. Merci d'avoir été avec nous. On revient nous dans un instant. On aura les avis tranchés de Damien Perrinel et de Jonathan Macardy. On parlera de Zlatan au Milan AC. Il a fait son annonce sur les réseaux sociaux en finesse, comme toujours. On reviendra également sur la Première Ligue actuellement. Manchester City mène 2-1 face à Wolverhampton. C'est le dernier match de la 19e journée de Première Ligue. Manchester City revient hypothétiquement à 11 points du leader Liverpool, qui s'est imposé hier 4-0 face à Leicester. A tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Timothée Mémon.
22h22, de retour dans l'After. On va continuer à dérouler l'actualité du football. On reviendra tout à l'heure sur le championnat italien, le championnat anglais. Appelez-nous au 32-16 pour participer au quiz de l'After. Ce sera en toute fin d'émission. Avant cela, on a des avis tranchés. On a des consultants qui veulent nous dire des choses. Et on va commencer avec celui de Jonathan Macardy, qui a envie de nous parler du Montpellier Hérault Sporting Club.
Si tu avais le choix, Corinne, est-ce que tu prendrais Jonathan Macardy avec toi?
Je crois pas, honnêtement.
Quel salopard, ouais, celui-là.
En même temps, est-ce que tu avais envie d'aller jouer avec Corinne Diacre?
Non, pas trop.
Bon, et ben voilà.
Bon, écoute, moi, je voulais parler de Montpellier parce que c'est une équipe dont on a pas vraiment parlé de beaucoup d'eux cette saison. Et je trouve que même si, du point de vue du classement, ils sont 9e, bon, en termes de points, ils sont encore dans la course pour jouer le podium. Et j'aimerais mettre un peu de lumière sur un club qui travaille, à mon sens, très très bien depuis maintenant plusieurs saisons. Alors déjà cet été, il y avait le ton qui avait été un petit peu lancé avec la recrue de TJ Savanier pour une somme de 12 millions d'euros, qui est quand même une somme considérable pour un club comme Montpellier. Il y a eu un recrutement qui, je trouve, outre Savanier, a été ambitieux, notamment. Et on sait que Jordan Ferry est arrivé. Il y a eu des retouches par-ci par-là dans cet effectif-là. Toujours une cellule de recrutement qui fonctionne bien. Tu perds Aguilar, tu vas chercher un latéral serbe qui fait le boulot. Bref, moi ce que je vois, c'est que cette équipe, elle fonctionne bien. Que t'as un entraîneur qui est en poste depuis plusieurs saisons maintenant, qui a été capable de donner une personnalité et un style à l'équipe. Alors les clichés, Montpellier, c'est dégueulasse, ça joue à 5 derrière, c'est du béton. C'est absolument faux. Franchement, à part le match au Vélodrome cette saison où là effectivement ils étaient venus pour bétonner, c'est une équipe qui va très très rapidement dans les transitions, qui a un style tout en verticalité. On connaît surtout les deux, le trio devant avec Mollet, Laborde et Delors, mais quand tu regardes au milieu de terrain, ça a de la qualité. Les latéraux, ils savent tous jouer au ballon. Les défenseurs derrière, ils ont tous une belle relance. Donc voilà, c'est une équipe qui certes ne pratique pas un jeu qui correspondrait au canon de beauté que beaucoup qui serait de jouer tiki taka possession et compagnie, mais c'est une équipe qui a un style et qui, tu vois, quand tu regardes un match de Montpellier, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc déjà chapeau aussi à l'entraîneur. Et enfin, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est dans la dernière interview de Laurent Nicolin dans l'équipe, où il insiste sur une chose, c'est que maintenant voilà, il fera tout pour que Montpellier ait son stade. Et pour moi, c'est le signe que, bah, depuis que Nicolin a succédé à son père, il est vraiment en train de structurer le club pour lui faire passer une autre dimension, pour lui faire passer une autre étape en termes de professionnalisme et pour vraiment devenir un club de l'élite française. D'avoir le stade, ça serait vraiment un très beau projet. J'espère que ça pourra aboutir pour eux. Mais le club, franchement, beaucoup de gens s'inquiétaient après le décès de Loulou Nicolin, mais il faut constater que son fils, enfin voilà, il gère ça vraiment d'une main de maître, et qu'à tous les étages du club, pour l'instant, ça va bien. Alors maintenant, il faut confirmer, et j'espère juste une chose pour eux, parce que je pense que, allez, si on parle juste du terrain, ils en ont la qualité. Moi, j'espère que cette saison, ils jouent le podium.
Christophe a composé le 32-16 pour venir parler du Montpellier Hero Sporting Club, et Christophe, bonsoir.
Et bonsoir à tous.
Salut Christophe.
Comment vas-tu?
Salut Christophe.
Tout va bien comme Montpellier, tranquillement à la 9e place. Je suis impressionné par la précision de l'analyse de Jonathan, parce que moi je regarde tous les matchs de Montpellier. Et effectivement, celui au Vélodrome, c'est celui où on s'est fait manger. Même si on a deux buts refusés par la VAR justement, on s'est complètement fait manger par Marseille, mais je pense pas que c'est qu'on a voulu bétonner. Par contre, Jonathan, je pense que Marseille nous a pris à la gorge sur ce match. Et bon, en balance, on s'aperçoit que l'OM fait le début de saison qu'ils font, certainement aussi parce que ils ont laissé entrevoir des qualités, notamment contre Montpellier sur ce match-là. Donc pour le coup, Montpellier, recrutement, Souquet, Rouli, Savanier, Ferry. Il faut savoir qu'en plus de ça, ce qui peut mettre un bémol au podium, c'est que l'effectif quand même reste limité en quantité. Et cette année, Savanier, Delors, Ferry, Laborde, ça n'a joué qu'un match ensemble et pas 90 minutes complètes.
Exactement.
Donc c'est vrai que on va récupérer Ferry. Est-ce qu'on aura une nouvelle blessure avec un Delors qui a fait la canne avec l'Algérie notamment? Voilà, on est encore soumis aux blessures de joueurs clés et qui peuvent vite pénaliser. Là, heureusement, on a Chotard qui a éclos cette année.
Très bon. Et t'as oublié le petit Ristich là, hein, le latéral gauche que vous avez pris là.
Qui est pas mal.
Aussi, pas mal, hein.
Qui était là l'année dernière, hein, qui est en fait dans la tradition Montpellier. Tu disais, c'est pas les canons de football, c'est vrai. Peut-être pour tout un chacun, mais pour nous à la Paillade, ce qui compte, c'est les duels, c'est l'engagement, le pressing, le jeu, le rythme. On parle de la première ligue tout à l'heure quand on parlait des salaires. Moi, ce qui me marque quand je regarde des matchs de première ligue, c'est le rythme, c'est l'intensité de match, de jeu. Et c'est ce qu'on essaie de voir nous à Montpellier. C'est pour ça que souvent les deuxièmes mi-temps nous ont coûté cher cette année, parce qu'ils donnent beaucoup dès le début. Et c'est vrai que peut-être la gestion du physique un peu problématique.
Question pour un spécialiste de la communication qui est François Manardo. Est-ce que tout à l'heure Jonathan a commencé son coup de cœur, on peut dire, plus qu'un avis tranché, en disant on parle peu de Montpellier. Est-ce que la communication
pour le moins austère, pour ne pas dire autre chose, de Derzakarian n'est pas la cause de ce pourquoi on parle si peu de Montpellier, alors qu'effectivement, on pourrait saluer le travail, le recrutement de Montpellier, le jeu de Montpellier aussi.
Je ne pense pas que ça repose entièrement sur les épaules d'un coach. Pas entièrement que de mettre son équipe en avant. Moi, je trouve que cette équipe Montpellier-Rennes, je suis même presque surpris qu'elle ne soit qu'à la 9e place.
Mais ils sont à 3 points de Nantes.
Oui, alors encore une fois, je vais pas me répéter, mais on est dans un championnat ultra serré. Ça peut encore remonter et je pense que ça va remonter parce que je trouve cette équipe cohérente partout et elle a même un autre avantage par rapport à son animation en 3-5-2. C'est qu'elle a entre Onyango et Souquet des joueurs, des vrais latéraux qui font vraiment bien leur travail, qui sont de bons footballeurs, et que ça, c'est un plus en général, et notamment dans cette Ligue 1. Et je m'attends, alors s'il n'y a pas de blessure, mais Savagnier est revenu tardivement aux affaires, mais il est bien revenu, et l'abord de l'or Savagnier, et j'aime beaucoup aussi Mollet avec eux.
Oui.
Je trouve que ouais, c'est une équipe qui, je l'ai vu contre le Paris Saint-Germain, et qui peut vraiment, vraiment te faire mal. Je pense que quand tu parles de podium, ouais, on est très réaliste. Après, par rapport à ta question, je pense aussi qu'il y a un président qui a gardé la gouaille de son père et qui compense un peu ce déficit de communication de Derzakarian.
Damien, un Deji Savagnier, là, dans l'entrejeu, moi, j'avoue que je regarde ce joueur avec les yeux de l'amour, les joueurs qui savent tout faire, qui sont bons sur coup de pied arrêté. C'est justement ce petit plus qui peut amener Montpellier, justement, dans ce top 5. On entendait Jonathan estimer cette équipe pouvait arriver au top 5. Christophe nous disait qu'il y croyait aussi. Un mec comme ça, qui sait tout faire, qui a le panache, le talent, mais aussi le caractère, il peut t'amener, il peut porter une équipe.
Ben déjà, de toute façon, il a prouvé l'année dernière en terminant meilleur passeur dans une équipe du championnat, dans une équipe comme Nîmes. Ça prouve déjà la qualité du garçon, sa qualité de passe. Ayant joué même plusieurs fois contre lui, je me souviens, il avait l'air sur le terrain un peu ailleurs, parfois limite je m'en foutiste. Mais ça allait tellement vite et surtout ce qu'il voyait, il arrivait à le réaliser à travers la passe. Donc c'est vraiment un joueur clé sur Montpellier. Après, surtout, moi je voudrais revenir parce que je l'ai pratiqué aussi, Michel Derzakarian, pendant 2 ans en tant que coach. Voilà, je pense qu'il faut respecter la personnalité des coachs. C'est quelqu'un qui de toute façon en public ne sera jamais ouvert, expansif, tout ce qu'on veut. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un
quand on
connaît un peu de l'intérieur, au moins. En tant que coach, quand il a quelque chose à vous dire, lui, il n'a pas peur de vous dire les choses en face, dans les yeux. Déjà, ça, je pense que pour un joueur, c'est très important de sentir ce respect. Et après, c'est sûr, moi, l'expérience que j'en avais fait, c'est que c'était pas là, je m'étais plus éclaté dans le jeu. Mais en revanche, j'avais une rigueur à chaque entraînement, à chaque match, qui était, ça transpirait de lui, en fait. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il arrive à faire, surtout d'un point de vue offensif de son équipe, là, ça m'intéresse qu'il y ait une évolution chez lui.
Je sais pas si on n'a pas assez parlé, peut-être, Jonathan, mais vraiment, dans le jeu, ils sont vraiment aussi beaux à voir, quoi. Alors qu'on s'attend des fois avec des équipes Montpellier
rugueuses. En fait, ils sont très vertis, ça va très rapidement. Et puis, alors après, attention, parce que là, je sais qu'ils vont prendre un attaquant. Là, apparemment, c'est fait, mais le nom a toujours pas fuité. Il faut surtout pas que ni Delors ni Laborde se pètent, parce que Skuletic, il fait pas vraiment l'affaire. Et je suis un peu inquiet sur la première partie de saison de Gaëtan Laborde. J'espère qu'il va se ressaisir. Je trouve qu'il passe un petit peu à côté par rapport à au standard auquel il nous avait habitué l'année dernière, notamment. Ça lui fait 4 buts. Je trouve qu'il est quand même en deçà de ses temps de passage, et même dans le jeu, je l'ai trouvé un petit peu moins saignant que ce qu'il avait pu être l'année dernière. Après, moi, j'ai un gros coup de cœur. C'est pas très objectif, mais c'est pour Andy Delors, quoi. Le mec, ce sera jamais le meilleur footballeur du monde, ce sera jamais le neuf le plus élégant, mais il a un caractère. Dans les matchs, il lâche pas. Il va au duel. Moi, j'adore. Franchement,
est-ce que c'est le descendant d'André Pierre Gignac?
Bah oui.
Ouais. Une fois, on a eu un plateau.
Le dire. C'est pas parce que.
Je sentais que tu l'avais au fond du cœur, tu vas aller le chercher.
Écoute, il est gitan, il a joué au Tigresse.
Voilà. Ça sera le joueur de la décennie 2020-2030.
C'est ça. Écoute, je l'ai demandé en plateau une fois, je l'ai demandé. J'ai dit, le sens de l'histoire, c'est pas que tu ailles un jour jouer à l'OM quand même. Et puis, il a pas voulu répondre, quoi.
Il a pas voulu répondre. Une dernière question, Christophe, pour toi. C'est une belle équipe qui a de bons résultats, 9e du championnat. Vous allez jouer contre Sainte-Anne au prochain tour de Coupe de France. Est-ce que. Ce serait la vraie cerise sur le gâteau pour la saison montpelliéraine de réaliser un beau parcours en Coupe de France ou pour la dernière Coupe de la Ligue?
ben, il aurait fallu déjà ne pas se faire sortir de la Coupe de la Ligue, clairement. Et bon, à Reims, là, pour le coup, on est quand même inquiet un peu quand on fait des déplacements champêtres à Montpellier. Ça fait quelques années que statistiquement on a plus tendance à les perdre que les gagner, cela. Donc moi je pense qu'il faut absolument miser sur la Coupe de France pour essayer de faire vibrer aussi le peuple montpelliérain, j'allais dire. Mais c'est loin d'être gagné, parce que quand on fait tourner, on est quand même limité dans la profondeur de banc, et dès qu'on fait tourner, il y a quand même des lacunes et des carences. Et
dernière question, Jonathan Macaire,
ouais, une petite question pour toi. Alors imaginons que tout aille bien, on touche du bois, et que t'es à tous tes milieux à disposition, Savagnier, Ferry, Chotard, Le Tellec. Tu joues avec quel milieu de terrain, toi? Là c'est le casse-tête, hein. Parce que Chotard, il a été bon aussi. Hein.
Chotard a été bon, et pour le coup, là, les trois dernières défaites, Mollet était sur le banc, Chotard titulaire. Moi j'aurais remis Mollet titulaire. Parce que si vous voulez, dans le jeu qu'on a, que je vous écoutais là sur la qualité de jeu, ce qui fait le plaisir du spectateur aussi que je suis, c'est de voir alterner des changements d'aile, du jeu court, du jeu long, et de la rapidité dans la transmission de balles pour remonter rapidement. Et ça, Mollet, jeu court, jeu long, ça arrive dans les pieds, ça va d'un côté de l'autre, et ça fait jouer les latéraux sont dans un
côté. Je pense que le petit dilemme, ça va être c'est un dilemme en termes d'équilibre, si tu joues avec et Savagnier et Mollet.
Ouais.
C'est peut-être pour ça que tu vois.
Oui, sauf que si on a Ferry derrière, c'est le problème, c'est l'absence de Ferry, sincèrement, par rapport aux deux là.
Bien sûr.
Parce que quand il y avait Ferry, on faisait rentrer Savagnier ponctuellement là, quand il revenait de blessure, on avait Mollet, ça allait très bien. Ouais. Mais là, d'avoir Chotard, qui a quand même un profil technique, hein, Chotard aussi, qui se porte vers l'avant, c'est pas pareil que l'expérience d'un Ferry en entre guillemets sentinelle, parce que c'est le Talek qui fait les frais là dans cette histoire, hein, clairement.
Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous pour nous parler de Montpellier. On te souhaite le meilleur évidemment avec ton club pour cette fin de saison.
Merci, les gars.
Et une belle ambiance à la Paillade. Vous signalez qu'en Premier League, Wolverhampton a égalisé face à Manchester City, 2-2. À présent, les buts de Sterling à la 25e et 50e ont trouvé des réponses par Traoré et Jiménez. Il reste 3 minutes à jouer. On continue avec les avis tranchés, et on a celui cette fois de Damien Périnel sur la mentalité française. On t'écoute.
Ouais, c'est surtout rebondir aussi par rapport au match d'hier entre Leicester et Liverpool. Et justement, François a fait une réflexion après ce match. Il a dit, ouais, je voudrais savoir qui est le préparateur physique de Liverpool. Et peut-être, en fait, si tout était une question de mentalité chez le joueur français et sa relation à l'effort intense et au don de soi. Parce que quand on regarde le match de Liverpool hier soir, bah, qui rentre du Qatar, qui joue dans un style de jeu ultra agressif, avec des courses à haute intensité sur chaque match, et ça depuis que Klopp est au club depuis 4 ans, moi je me pose la question, pourquoi nous, en France, en fait, nous ne sommes pas capables de faire ça? Pourquoi on doit presser que 15 minutes par match, au risque d'être cramé ensuite, c'est ça en fait? Et comme disait Las Palès, du fameux duo...
Chevalier Las Palès.
Merci. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Exemple, Bielsa.
Toi, tu cites les meilleurs.
Bielsa qui est resté que un an à l'OM parce que les joueurs à la fin en pouvaient plus, ou alors ils étaient cramés et il a décidé de partir.
C'est pas pour ça. Hein.
Il y a beaucoup de ça aussi.
Il est parti parce qu'il s'embrouillait avec l'avocat de Margarita.
Ouais. Bon, c'est tellement. Donc tant mieux, c'est peut-être la raison.
Non, mais c'est la vraie raison, c'est ça.
De l'intérieur, il y a des joueurs qui en pouvaient plus aussi.
Ouais.
Voilà. Il y a Tourelle qui a voulu instaurer ça au début. Il s'est rendu compte que c'était compliqué de faire ça en France. Et Silvinho, lors de ses premières interviews, c'était aussi ce qu'il prenait. Donc on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, où en fait il y a cette culture de l'effort aussi. En Espagne, où certes la technique prédomine, mais où les transitions sont ultra rapides, les récupérations intenses, on n'a qu'à demander à Marcelinho, qui était à Valence, qui jouait dans un style comme ça, et même à un Guardiola, où il fallait vite récupérer le ballon en position haute, et donc faire de gros efforts. Donc est-ce le rapport péjoratif auquel on associe le don de soi? Pourquoi le dénigrer? Être à bloc sur 90 minutes, veut-il dire que nous sommes techniquement et tactiquement faibles? Donc en gros, à quel moment dans notre éducation, école de foot, préfo, formation, en fait, nous dévaluons l'état d'esprit? Un Allemand, un Anglais ou un Américain, et là les Américains, je sais de quoi je parle parce que je les ai pratiqués un peu, et ils vont être besogneux, mais chez eux, en fait, c'est la base, et ils vont voir ça comme une qualité chez eux. Et pourquoi est-il si compliqué chez nous de répéter 2, 3, 4 fois les efforts intenses à très haute intensité? Je sais pas, moi, quand je vois un Trent Alexander-Arnold, je me dis, bah, il est né avec ça, ou alors on lui a appris? Ou alors c'est peut-être la faute des clubs aussi, parce que dès qu'un euro est investi, bah celui-ci va dans un transfert ou dans un salaire. Et pourquoi pas investir dans un centre d'entraînement moderne, avec des terrains d'entraînement de qualité. Bref, créer un environnement propice à la performance du joueur et lui donner tous les outils pour s'éclater dans son métier. Les clubs doivent donner envie aux joueurs de s'impliquer, de s'investir dans le projet du club, autrement qu'en alignant les zéros sur le bulletin de paye. L'inciter à venir le plus tôt possible au centre d'entraînement pour en repartir le plus tard, et ça sans que ce soit une contrainte ou une obligation. Et je prends l'exemple de Blaise Matuidi, qui pourtant sortait du PSG et qui arrive à la Juventus de Turin. Et pourtant, Blaise, sur son état d'esprit, on peut dire, il n'y a rien à reprocher, irréprochable. Et pourtant, un matin, il arrive au centre d'entraînement de la Juve et il n'y a personne dans le vestiaire. Bah ouais, il n'y a personne dans le vestiaire parce qu'en fait, ils étaient tous à la muscu déjà. Et donc, bah, il s'y est mis lui aussi. Et pourtant, c'est Blaise Matuidi. Cristiano Ronaldo, qui est dans un extrême aussi avec Benatia, qui nous a raconté récemment sur RMC Sport, qu'à la retour d'un déplacement, vers 2h du matin, il allait se faire une séance de muscu. Alors là, on est vraiment dans l'extrême.
Et qui faisait 30 minutes avant, 30 minutes après, systématiquement. Voilà,
exactement. Pourquoi en France, quand on donne rendez-vous à 9h30, les joueurs arrivent à 9h29? Alors qu'en fait, à l'étranger, ils sont là à 8h30 ou à 8h45. Voilà, en gros, c'est toute cette mentalité. Donc, qui sont les coupables? Les joueurs, certainement. Les entraîneurs aussi, je pense. Et les présidents de club vont devoir vite s'adapter et proposer aussi des outils, des installations en rapport avec les exigences du haut niveau.
Merci beaucoup Damien, très intéressant. François, justement là, c'est intéressant. Il y avait ce que disait Damien, vous avez écho à une expérience récente. Bien bossé, Damien, hein. Ouais, j'ai pu visiter le centre d'entraînement de Tottenham, celui d'Arsenal et celui de Liverpool en l'espace de très peu de temps sur la deuxième partie de saison dernière. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu visiter en France, camp des loges compris. Est-ce que pour toi,
on parle que d'un problème d'infrastructure ou de mentalité, ou les deux?
Les deux sont peut-être liés.
D'après ce que je comprends dans ce que dit Damien, il faut inciter les joueurs à avoir envie de passer du temps à leur centre d'entraînement, les responsabiliser sur leur envie de travailler plus. Est-ce que tu penses qu'en France, il y a un vrai déficit?
Il y a un déficit de mentalité. Après, il y a un déficit infrastructurel en fonction des budgets. Mais tu peux avoir dans d'autres championnats des clubs qui sont beaucoup moins bien lotis que ceux que tu as cités, Tottenham, Liverpool ou dans d'autres, Valence avec qui je bosse en ce moment en Ligue des Champions. Mais les joueurs en ont pas moins pour autant une certaine exigence. Donc c'est un problème de mentalité. Attends,
mais le problème,
un problème de mentalité avant que ce soit un problème d'infrastructure.
Mais allons au bout. Le problème, c'est pas... Alors oui, on peut fermer en termes d'infrastructure. Oui, peut-être qu'il y a un problème de mentalité. Mais le problème, c'est ça vient des entraîneurs, tout simplement. Je pense que les entraîneurs en France n'ont pas comme philosophie et comme envie de faire jouer leur équipe à fond.
Attends, 90 minutes. Juste quand tu dis entraîneur, tu penses entraîneur et formateur ou tu penses aux entraîneurs de Ligue 1 en
France? Formateur, je connais pas assez le sujet pour en parler, donc je vais dire juste les entraîneurs de Ligue 1. Moi, ce que je vois avec Marcelo Bielsa, oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment, c'était au creux d'hiver où des joueurs se sont plaints. C'était, on va les citer, hein, c'était André Ayew notamment qui avait essayé de mener une sorte de petite rébellion sur les charges de travail. Mais c'était sur les charges de travail. C'était pas du tout sur le style de jeu. Et les joueurs à Marseille se sont tous éclatés dans le jeu. Ce qui était compliqué avec Bielsa, c'était les entraînements. Mais on va dire que les entraînements, la préparation physique, la prépa foncière, étaient nécessaires à avoir un tel niveau d'intensité lors des matchs. Moi, je pense que c'est les entraîneurs qui sont frileux. Les entraîneurs ont peur de cramer leurs joueurs. En France, on a ce vieux mythe comme selon lequel on ne peut pas jouer tous les 3 jours parce que sinon les joueurs ils se blessent. Donc t'imagines jouer tous les 3 jours en faisant des courses à haute intensité plus nombreuses que la moyenne. Là, je pense que la majorité de nos entraîneurs ont des syncopes. Et ce que je pense qui serait nécessaire pour le bien du football français, c'est que des entraîneurs qui viennent de l'étranger, pas forcément qui viennent de l'étranger, mais qui arrivent avec des idées neuves, prennent un petit peu le pas sur les habituels entraîneurs qu'on a en Ligue 1. Et je trouve que c'est un petit peu en train de se passer.
Non, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Les entraîneurs sont certes responsables de tout ça, mais c'est à la formation, c'est des gamins en fait que ce joueur, il faut lui apprendre, lui inculquer ce type d'effort.
Mais c'est là.
Et quand t'arrives en pro, c'est trop tard, c'est fini. Et un autre truc, pourquoi tu les vois en Ligue 1 faire un effort et puis dire ah non c'est bon maintenant le repassement défensif là je peux plus. Mais par contre tu vas le voir à la Juve ou ailleurs et les mecs ah là par contre parce qu'il faut faire le pressing on y va et on fait 3-4 efforts.
C'est l'institution, c'est
Jonathan,
le club.
Pourquoi Jonathan, tous les entraîneurs étrangers qui sont passés par la Ligue 1 et certains avec un drôle de pédigré, qu'est-ce qu'ils te disent au final quand ils quittent la Ligue 1? Ils disent que le joueur français, il n'est pas préparé mentalement à l'effort. Il n'a pas envie. Mais même des joueurs étrangers s'en sont étonné à demi-mot. Je me souviens de Vanderville, le néerlandais du PSG, qui en avait un peu parlé. Mais tous les joueurs, tous les entraîneurs, Jonathan, étrangers, ils font le même constat. Mmh. Ils arrivent et quand ils ont affaire à la diaspora française dans certains clubs français, ils s'aperçoivent que le joueur français, dans sa formation,
la faute à qui? Damien l'a dit, les formateurs. Moi, je pense que les entraîneurs ont aussi leur part de, ont une grande part de responsabilité. Parce que quand tu vois ce que Bielsa a fait à Marseille, les joueurs, ils se donnent à fond. Même, on va prendre pas forcément Bielsa, mais regarde l'année dernière, le LOSC de Christophe Galtier. Je pense que Christophe Galtier a réussi à mettre en place une équipe qui, elle, justement, a mis beaucoup d'intensité sur l'ensemble de la saison et sur la grande majorité des matchs. Donc, la problématique, pour moi, c'est l'entraîneur. Et attends, et c'est libre à l'entraîneur aussi d'embaucher le préparateur physique qui va bien, qui va faire la prépa foncière pour rattraper le retard. Libre à l'entraîneur aussi d'utiliser son pouvoir pour justement améliorer les infrastructures du club. On sait qu'il n'y a pas tous les grands entraîneurs qui arrivent qui sont arrivés par exemple au Paris Saint-Germain. Je crois que c'était Ancelotti. Il a fait
il a tout fait changer.
Il a fait professionnaliser tout ça. Donc je pense que le rôle de l'entraîneur français est prépondérant et je pense que la mentalité des entraîneurs français qu'on a actuellement sclérose en fait le développement de notre football.
Oui, je suis à moitié d'accord avec toi. Maintenant, je pense que l'entraîneur, quand il est bien animé avec de bonnes intentions pour justement aller vers un football un peu plus moderne, au très haut niveau, il se heurte aussi à cette mentalité française. Et quand tu es seul face à beaucoup de joueurs qui sont des feignants ou qui entraînent, qui des tirs au flanc, merci. Ben t'es seul face à ce groupe-là. Et puis c'est les joueurs qui ont la clé sur le terrain. Donc après, à un moment donné, il y a même certains qui peuvent être assez vicieux pour te le faire payer.
On va valoriser le joueur talentueux qui va faire trois passements de jambes, qui va faire ça au centre de formation. On va déjà lui mettre des salaires ou l'acheter, lui mettre des primes à la signature. Mais le problème, lui, au bout d'un moment, on lui a déjà tout donné au centre de formation. Il est déjà riche, le gamin. Est-ce que tu crois qu'il a vraiment envie de se faire mal derrière? Moi, je pense que c'est mort. En fait, il a plus envie d'aller au bout. Bref.
Merci beaucoup Damien pour cet avis tranché extrêmement intéressant. Merci Jonathan également pour celui sur Montpellier tout aussi intéressant. On revient dans un instant pour parler du mercato chaud. Le temps pour moi de vous dire que Manchester City s'est incliné finalement face à Wolverhampton
les champions,
avec un troisième but inscrit par Doherty, Matt Doherty.
Pitt.
Non, Matt, justement. Et puis, il y a eu un coup franc sur la barre de Raheem Sterling dans les arrêts de jeu. Et Núñez Espirito Santo a pu souffler. On revient dans un instant pour le Mercato Show.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h46 de retour dans l'After dans quelques instants, dans un quart d'heure à peu près. On va vous parler du Milan AC et du remariage avec Zlatan Ibrahimovic. Simone Rovera sera avec nous. On parlera de la Première Ligue avec cette surprise, la victoire de Wolverhampton 3-2 face à Manchester City qui semble ouvrir la voie royale qui était déjà bien ouverte à Liverpool pour le titre de champion en fin de saison, puisque Liverpool compte à présent 13 points d'avance sur son poursuivant direct qui reste Leicester. Du coup, Wolverhampton s'est donc imposé 3-2 face à Manchester City. Les Citizens qui avaient été réduits à 10 en début de rencontre. Avant de parler de tout ça, on va faire un petit tour du côté du Mercato Show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Messieurs, on parlait de l'Angleterre à l'instant. Une information, Richarlison, vous savez, l'attaquant d'Everton, ouais, serait dans le viseur de Manchester United après Sancho, Madison, Mings. Voilà le nom donc de Richarlison comme cible potentielle des Red Devils. C'est ce qu'affirme la presse anglaise, The Evening Standard. Manchester United a les moyens d'investir sur ce joueur. Pas sûr que Carlo Ancelotti, fraîchement nommé par les Toffees, laisse partir son attaquant. C'est un attaquant qui a carburé littéralement ces deux dernières saisons, surtout la saison dernière, mais qui réalise un début de saison en demi-teinte.
Il a perdu son efficacité. Après, il s'est installé en sélection. Il est maintenant convoqué en sélection brésilienne. C'est un international brésilien. Mais est-ce que c'est vraiment le genre de joueur dont Manchester United a besoin actuellement? Je ne pense pas. Je pense que Manchester a surtout besoin d'un mec qui plante beaucoup de buts devant.
Rashford et Martial ne peuvent pas tenir ce rôle-là?
Je pense qu'ils ont besoin d'un vrai numéro 9, une machine à but, chose qu'ils n'ont plus depuis un bon moment.
Le problème de Martial, c'est qu'il peut faire un mois extraordinaire et s'éteindre derrière un mois trop irrégulier. Il a une standing ovation contre Newcastle, il a mis deux buts extraordinaires, mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus de régularité dans ses performances.
Vous l'avez entendu dans cette brève, on sait que Manchester United s'intéresse aussi à Jadon Sancho et à Madison de Leicester. Ouais.
qui est un petit génie du foot anglais. Ce sont des profils que vous imaginez à United ?
De toute façon, il va falloir renouveler au bout d'un moment aussi hein, à United. Et ça fait un petit moment qu'ils sont en deçà des standards du club. Le probable départ de Pogba en fin de saison. Après Maddison côté Leicester, c'est vrai que c'est lui qui a la main mise hein, sur le jeu. Très performant sur les coups de pied arrêtés avec son pied gauche. Enfin franchement un super joueur.
Et Sancho apparemment ça se passe pas très bien à Dortmund dans son comportement. Pas tip top et je pense que ça serait pas lui rendre service. Si j'étais son agent, je dirais écoute, reste en Allemagne un petit peu au chaud, grandis un petit peu avant d'aller en Angleterre avec les tabloïds et compagnie.
On sait que tu suis un petit peu le championnat écossais, mon cher Jonathan. Non,
juste une équipe.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jamie Hamilton ?
Non.
Joueur de Hamilton Academial FC en première chip.
Je connais ce club.
Burnley. Tu connais le club ?
Là-bas. Il y en a qui connaissent le club. Je suis allé à Hamilton.
Et qu'est-ce que tu allais y faire ?
J'ai saoulé la gueule.
Allez demander à Pierre Ducrot ce que je suis allé faire là-bas.
Bon, on lui demandera la prochaine fois. Jamie Hamilton est dans le viseur de Burnley et Brighton. Voilà pour l'Angleterre.
Ça, c'est les fonds de tiroir, mon pote, là.
Non. Un sujet sur Cavani. On le sait. Il y a toujours cet appel du pied insistant de l'Atlético. Et il y a un grand de l'Uruguay qui conseille donc à ce grand-là de l'Uruguay d'aller à l'Atlético. Ah, c'est Forlan qui a dit ce serait spectaculaire, un grand transfert pour l'Atlético. Voilà ce qu'a affirmé Forlan. Ce serait très bien pour les deux parties. Ce serait une association qui compterait pour le présent, mais aussi pour l'avenir.
Ouais,
messieurs, l'avis de Forlan dans ce dossier, il est intéressant. Il peut avoir.
Il est surtout intéressé. Il a joué. C'est un joueur emblématique de l'Atlético. Il est pote avec Cavani. Après, le mariage entre Cavani et l'Atlético de Simeone, bon, c'est une évidence. C'est parfait. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est parfait pour le Paris Saint-Germain et est-ce que c'est parfait pour l'histoire de Cavani au Paris Saint-Germain ? C'est notre angle de vue, donc après, on est obligé de le voir comme ça.
L'histoire, quoi. Elle commence à s'écrire en pointillé tout de même, je trouve.
Hein. Oui, mais bon, si Icardi se pète, tu fais comment ?
C'est la question du mercato pour le Paris Saint-Germain et Leonardo, et dont on a un peu évoqué hier soir.
Loïc Mbesso se rapproche du Havre. Vous l'avez peut-être remarqué, ce joueur du Paris Saint-Germain qui a fait quelques apparitions dans le groupe professionnel. Il a besoin de temps de jeu. Il est en négociation avec le Havre, selon les informations de Loïc Tanzi, depuis plusieurs semaines pour trouver un accord. Le Havre qui est 7e de Ligue 2. Le départ d'ailleurs de Samba Camara en MLS va dans ce sens-là. Paris et le Havre négocient donc désormais sur les possibilités d'un prêt. Les jeunes Parisiens n'ont d'autre choix que de partir trouver du temps de jeu ailleurs, en Ligue 2, à l'étranger. C'est inéluctable à Paris, messieurs.
Bah oui.
Bah après, surtout pour lui, le pauvre, il a joué. Il a vraiment pas beaucoup joué en première période. Et d'autant plus, il jouait pas à son poste. Et s'était mal passé pour lui contre Reims.
Il a besoin de jouer à cet âge-là.
Et joue autant que tu peux, c'est ce qui est le plus important.
Et puis, partir du Paris Saint-Germain sans avoir réussi à t'y reposer en pro ne veut pas dire que tu vas pas faire une belle carrière après. Hein. Regarde, Augustin, là, il est pas mal. Dembélé, il est au PSG aussi. Nkunku, il commence à s'imposer en Bundesliga. Ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, mais l'état pour jouer au Paris Saint-Germain et qu'il y a des ambitions en Ligue des Champions, à moins d'être un petit crack, je vois pas beaucoup de joueurs du centre qui s'imposeront avec l'équipe première.
En termes d'identité, messieurs, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant quand on est un club comme le Paris Saint-Germain de faire le constat que la porte est fermée pour les jeunes ?
C'est des choix stratégiques et moi je les comprends complètement. Et puis ça fait le bonheur des joueurs. Le club, bon, il s'y retrouve pas parce que c'est pas ça qui lui permet de
manger François, des milliers d'euros. Mais sur la somme, ça doit faire maintenant peut-être 50 millions d'euros.
L'été dernier,
fair play financier.
C'est ça.
Oui, mais ça a été un des leviers, mais c'est surtout très très bien pour ces joueurs, pour cette jeune génération de joueurs. Je pense aussi à Nsoki qui s'impose doucement mais sûrement à l'OGC Nice.
Il y a Diaby qui est parti à Wolfsburg, c'est ça ? Il ne part pas dans des clubs en plus.
Non.
C'est le club. Hein.
C'est bien pour tout le monde.
Deux Titi seulement dans cette équipe parisienne, Kimpembe, et l'autre, c'est Kylian Mbappé, qui est passé par Monaco.
Oui, mais si on parle d'Olympique de Marseille, Paris Hadji,
Camara,
voilà.
Et Max Lopez.
Max Lopez, mais c'est assez rare pour être souligné, ça passe souvent.
Ça commence. L'Hadji compte pas pour l'instant. Et Lucas Perrin,
il est centre de formation.
Comment?
L'Hadji, c'est centre de formation.
Et Lucas Perrin aussi. Bon, après, à Marseille, ça commence un peu là.
Le truc, c'est qu'on n'est pas dans, aujourd'hui, en tout cas, dans le même standing de club entre les deux.
Exactement. Oui. Non plus, donc, oui. Ouais.
Mais il y a un club qui a vraiment pas besoin de se reposer sur son centre de formation, même si ça bosse bien, c'est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, la stratégie de n'importe quel club de Ligue 1, c'est surtout
c'est
reposer sur
le centre. C'est un peu dommage, c'est parce que je me rappellerai toujours, lors de l'arrivée des Qataris, une des premières phrases de Nasser, c'est « On ne va pas acheter Messi, on va former le nouveau Messi ». Bon, pour l'instant, on attend. Hein.
Ouais. On va attendre longtemps, oui. Si la
on va attendre aussi. Le petit Hollandais là, qu'ils ont pris là, qui il déchire tout le monde apparemment.
Le tout petit, pas Bakker. Celui qu'ils ont pris à la Masia.
Ouais, voilà, ouais, avec les dreadlocks là. Apparemment, il cartonne.
Et je sais pas s'il déchire plus sur les réseaux sociaux.
On l'a vu en Youth League, c'est pas mal.
Mais Simon.
On va attendre un peu. Quoi.
Voilà.
L'Inter aurait ciblé Marcos Alonso, que vous connaissez, de Chelsea, mais aurait un œil, si ça ne se faisait pas, sur Levin Kurzawa. Alors Levin Kurzawa, quand même un gros mystère quant à sa qualité de jeu réelle. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que vous l'imaginez en capacité à l'Inter de se faire une place, de se relancer?
Mais c'est un bon joueur à la base, c'est ça qui est hallucinant. Rappelez-vous quand il signe au Paris Saint-Germain, la saison qu'il sort à Monaco, cette qualité de centre extraordinaire, un jeu de tête, il avait marqué 4-5 buts de la tête. Il s'est totalement perdu. Alors est-ce que c'est la vie parisienne? Est-ce que ça a été une étape trop importante?
Ça ne
sais pas. Mais le problème, c'est surtout juste pour finir, ce que j'attends de voir s'il y va, c'est la rencontre entre le style de Kurzawa dans une des capitales de la mode qui est Milan.
Non, mais moi, ce que j'attendrais de voir, c'est ce que l'entraîneur de l'Inter comptait peut en faire.
Et moi, en fait, moi, j'estimerais un club où il pourrait se relancer et un club qui a besoin à ce poste-là, c'est Lyon.
S'il intègre l'exigence Kurzawa à Lyon, l'Inter, c'est mieux.
Ça a l'air
à Lyon.
Compliqué, hein.
Mais je pense
qu'il va
peut-être faire en sorte aussi de revoir ses prétentions salariales à la baisse aussi. Mais voilà, moi, je ferais ce pari-là de le relancer, ce joueur.
Je suis plus qu'il aille travailler avec Conte que Rudy Garcia.
Il a 27 ans quand même, hein. Faudrait quand même maintenant qu'il arrive à sortir de cette situation.
C'est intéressant ce que dit François. Le profil d'Antonio Conte, qui a réussi à sortir certains joueurs d'un certain marasme par son dynamisme, par son enthousiasme. Pensez que Kurzawa, il peut le concerné, parce que des fois c'est la sensation un petit peu qu'on a, c'est qu'on a un joueur qui est pas concerné.
Mais après surtout dans le style, dans le schéma tactique de Conte, avec les trois derrière et les deux sur les côtés, c'est un poste qui est parfait pour lui.
Après il peut jouer aussi quand même, tu vois, dans une défense à 4 à Monaco, il était très bon dans une défense à 4. Moi je pense que c'est juste un joueur qui a totalement perdu confiance. C'est pas possible d'être aussi prometteur et de devenir aussi nul. Rappelez-vous juste sa qualité de centre, il mettait des centres parfaits, tendus, tirés au cordeau. Là t'as l'impression qu'il aussi bien que Bounassar, quoi, sans déconner.
Mais dans ce qu'on lui demandait en priorité, qui était de défendre, c'est là que les critiques étaient le plus justifiées.
Oui, mais même là, même offensivement, il n'apporte plus rien. Donc,
après, on en parlait cet été déjà, tu te souviens, on se disait, de toute façon, mais même pour lui, sors-toi de là, bouge de Paris et va jouer.
Et puis en plus, il a une sale image. Enfin, son image, je ne dis pas qu'il a une sale image, mais.
Bon, il n'y a pas une très bonne image.
Il devient un petit peu un clown pour beaucoup de gens. Non, mais c'est vrai.
Si on reste sur le joueur, il a été doublé par Bernat, on le comprend tous, il a été aussi doublé par Berchiche, et pourtant il y avait vraiment duel, hein. Et puis au fur et à mesure l'Espagnol s'est imposé, qui est pas un foudre de guerre, alors qu'il a d'autres qualités Kurzawa. Non, je pense que le mariage, s'il se fait compter Inter Kurzawa, c'est tout bénéf pour lui. Si il comprend qu'il faut qu'il passe à autre chose, quoi.
Je termine avec un transfert domestique, ou plus exactement une rumeur, une possibilité. Ça se passe à Saint-Étienne. Saint-Étienne a mis à l'essai un dénommé Clavins Erel. C'est un joueur qui a joué à Avranches en National 1.
C'est pas
25 ans, donc c'est pas non plus tout jeune. L'essai aurait été plutôt positif. Claude Puel, attaquant, pur attaquant.
C'est pas un de la famille de Swinmis.
Christophe.
Ah, je ne sais pas si c'est de la famille de Christophe. Je croyais que tu me demandais si c'était pas de la famille de Claude Puel, parce qu'il avait un peu l'habitude de lancer ses
propres. Mais qu'est-ce que tu fais?
Honnêtement, j'ai appris ça avec cette information de Loïc Tanzi. 25 ans, peut-être pour renforcer l'équipe B et puis pour faire quelques apparitions. En tout cas, voilà à quoi pourrait ressembler, c'est ce que je voulais mettre en avant à travers cette brève, à quoi pourrait ressembler le mercato avant, stéphanois, à savoir que les gros salaires vont partir et que Claude Puel va lui cibler des
jeunes joueurs qu'il veut faire progresser,
et essayer de
faire progresser, ainsi que ceux de la Gambardella. Ils sont nombreux à avoir signé pro. 22h58, on revient dans un instant. La dernière heure de cet after, il y aura le quiz, il y aura l'Angleterre, il y aura l'Italie avec le mariage entre Zlatan et le Milan AC. On revient dans l'after.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our £14 billion lending fund to help small businesses. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. All lending subject to status.